Histoire d'archives avec Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Alors, nouvelle émission après une petite pause estivale. Vous nous roulez bon pied, bon oeil aujourd'hui.
Oui, je suis très content évidemment de revenir puisque ça fait effectivement 2 mois. Le dernier rendez-vous c'était au mois de juillet. Depuis, effectivement, les vacances sont passées.
Alors, pour cette nouvelle émission, pour cette rentrée, pour ce 8 septembre, qu'avez-vous préparé pour nos auditeurs de Fréquence Mistral Digne-les-Bains?
Alors écoutez, j'ai préparé d'abord deux petits documents d'archives qui sont en fait le fruit de mon travail de l'été. J'ai, en fait, pour que vous compreniez bien pourquoi je présente ces deux documents, j'ai repris des archives qui avaient été numérisées par les agents du service et qui n'avaient pas été exploitées, qui concernent la Deuxième Guerre mondiale. Ces archives, donc, étaient disponibles, mais évidemment, il fallait un petit peu reprendre, essayer de les analyser pour voir si ces documents présentaient un intérêt. Et je suis tombé sur deux documents, un que je connaissais très très bien, et puis un autre que j'avais déjà vu, mais que j'avais un peu ignoré, parce qu'à l'époque, je n'avais pas vu la portée. Alors, de quoi s'agit-il? Le premier document, en fait, est une attestation qui est très particulière puisqu'elle est en fait écrite de la main même du dernier chef de la Gestapo à Digne. Donc elle est écrite en août 1944, donc quelques jours après la libération. Et elle concerne donc une personne, un Français, qui a donc collaboré et qui a été jugé par ce qu'on appelait le tribunal populaire. Donc était une juridiction d'exception, mais créée ad hoc, hein, c'est-à-dire en fait, tout le monde sentait bien qu'il fallait aller vite pour commencer à juger les principaux collaborateurs, et donc les résistants avaient organisé en fait un tribunal qui ressemblait à une sorte de justice un petit peu expéditive, hein, puisque en l'occurrence la personne a été jugée et le lendemain elle a été fusillée. Vous voyez, donc c'était assez rapide. Et d'ailleurs, s'est posé très très vite la question de savoir quelle était la validité ensuite de ces jugements, puisque non seulement le tribunal condamnait, mais il condamnait aussi à la peine de mort, hein, dans certains cas, mais aussi à des peines de prison et puis aussi à des confiscations. Et en réalité, toutes les procédures engagées ont été annulées par la suite pour que ces personnes soient jugées dans les règles de l'art, évidemment par des tribunaux spéciaux qu'on appelait des cours de justice, qui présentaient toutes les garanties juridiques, évidemment. Voilà. Mais là, on est dans l'urgence de la libération et il s'agit de juger donc un personnage qui s'appelle Battel, qui est un personnage donc qui n'est pas des Basses-Alpes, hein, qui n'est pas du département, qui est arrivé ici parce qu'il est délégué à l'information du ministère, donc du gouvernement de Vichy. Il a donc un bureau à la préfecture et puis ensuite il aura d'ailleurs un autre bureau dans un lieu privé. Et puis il travaille aussi chez lui. Il a été d'ailleurs aussi victime d'un attentat de la part de la résistance. Donc il a été blessé en février 44. Et donc depuis, évidemment, il est protégé. Il se terre un peu, il est protégé. Il a en permanence une garde avec lui pour évidemment éviter qu'il soit la cible d'un nouvel attentat. Puisque c'est quand même l'une des principales personnalités parmi les collaborateurs du département. Alors ce personnage donc est arrêté. Hein, il a bien essayé de s'échapper. Il a détruit ses archives. On a un document, une lettre qu'il a écrite à Vichy, qui a été saisie par les résistants au moment de l'arrestation, où il dit que vous comprenez qu'il a commencé, il dit, hein, vous comprenez, j'ai commencé à détruire les documents les plus compromettants, les plus embêtants, pour pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Hein, et il écrit, vous me comprenez. Voilà, donc il a fait le ménage un petit peu. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui reste des documents qui ont été saisis, il n'y a finalement pas grand-chose, bien que. Voilà. Alors, cet individu est donc arrêté. Il y a évidemment, il subit des interrogatoires qu'on n'a plus, qui ont été récupérés par la sûreté militaire et dont on ignore ceux qu'ils sont devenus. Donc là, c'est aussi un sujet intéressant. Hein. Pourquoi ont-ils été récupérés? Parce que, évidemment, dans cette affaire-là, on regrette toujours, les historiens, que la personne ait été exécutée très très vite. Et que par conséquent, on n'ait pas eu le temps de dire ce qu'elle avait fait.
Et qui elle pouvait protéger.
Et qui elle pouvait protéger. Voilà. Donc, alors, il semblerait quand même qu'elle ait donné quelques noms. qui d'ailleurs ont été utilisés après, parce que heureusement, un de ceux qu'il avait interrogé avait un cahier de notes, et donc a pu fournir ce cahier de notes ensuite. Mais ce cahier de notes, on ne l'a pas non plus. Voilà, donc ce personnage est arrêté, donc libération de Digne, 19 août, hein, je rappelle, et là, on est le 24 août. Et le 24 août, donc, il passe devant ce tribunal populaire, qui est, dont le président et l'intendant, enfin l'ancien intendant du lycée Gassendi, qui a été révoqué par Vichy, parce qu'il était, il n'était pas rentré dans le cadre de la politique de l'époque, qui est ce qu'on appelle la Révolution nationale. Donc il avait été révoqué, donc c'était un résistant authentique. Et il préside ce tribunal, un petit peu à son corps défendant, car ce n'était pas lui qui était pressenti au début, mais... Alors la question, c'est comment prouver la culpabilité de ce personnage, Battel. Alors la première chose, évidemment, c'est l'interroger, savoir ce qu'il a fait. La deuxième chose, c'est évidemment les témoignages des résistants, de ceux qui ont eu affaire à lui. Mais c'est un personnage, en fait, qui est difficile à saisir, car en réalité, il n'a jamais interrogé personne, il n'a participé à aucun interrogatoire. En fait, c'est un chef de réseau, c'est un chef de réseau de collaborateurs qui a pour mission, en fait, de recueillir l'information et de la délivrer aux Allemands. Alors, que fait-on? Que font les résistants? Eh bien, la solution la plus simple, c'est d'aller interroger celui qui est le destinataire, en principe, de ces informations, qui est donc le chef de la Gestapo. Et donc, on en revient à ma petite note, hein, cette petite lettre, attestation, qui fait 8 ou 9 lignes, écrite donc de la main, puisque il faut savoir aussi que le chef de la Gestapo à l'époque, hein, je l'avais déjà dit, c'est un professeur de lettres et de langue, et en particulier, donc c'est quelqu'un qui parle très bien le français. Et d'ailleurs, effectivement, et à l'époque, ne connaissant pas le personnage, évidemment, hein, son curriculum vitae, je ne savais pas que c'était lui qui avait écrit. Donc il dit, alors je lis la note, hein, elle est très simple. C'est Michel Fred, dès le 14 juillet 1911. Ah, alors on n'arrive pas à lire parce que l'encre, c'est une encre bleu-violette, vous savez, un peu à l'ancienne, un peu bavée, Palatina, dit Schultz, puisque comme beaucoup d'hommes qui travaillaient dans le renseignement, ils utilisaient tous des surnoms, hein, donc ils n'utilisaient jamais leur vrai nom, déclare qu'il a eu des rapports presque journaliers avec M. Battel, délégué à l'information, que celui-ci lui a fourni des renseignements concernant les chefs des forces françaises de l'intérieur et les hommes de la résistance. Le témoin persiste et signe à Digne, le 24 août 1944, et c'est donc c'est signé Sébiche. Alors, l'une des questions, évidemment, quand on a ce document, c'est quelle est sa valeur? Est-ce qu'on peut faire confiance à celui qui a écrit ce document, qui est quand même un spécialiste du renseignement, de la manipulation, chef de la Gestapo, donc c'est pas un personnage anodin, c'est quelqu'un qui d'ailleurs, alors c'est un professeur de, comme je le disais, de langue et qui a en fait est rentré très très vite, en fait qui a fait donc qui a été mobilisé, hein, comme tous les Allemands de son âge, puisqu'il a un peu plus de la trentaine, hein, étant né en 1911, qui est tout, très très vite rentré dans les services de renseignement. Alors il a travaillé d'abord pour les services de renseignement de l'armée, avant de rentrer donc à la Gestapo de Nice, où, d'après une étude qui a été faite, il était l'un des pires adversaires des Français, parce que justement il avait cette qualité que beaucoup n'avaient pas, c'est qu'il connaissait très très bien la langue et la culture française. Donc apparemment c'est quelqu'un qui n'utilisait pas la violence lors de ses interrogatoires, mais qui était capable de manipuler, vous voyez, de rentrer un petit peu dans l'univers mental de ceux qui l'interrogeaient, et donc de réussir comme cela à comprendre, hein, à pouvoir retirer du renseignement de ceux qui étaient interrogés. Voilà. Il arrive donc à Digne en juin 1944 parce qu'il est apparemment il a eu quelques problèmes avec le Parti populaire français. Et c'est un peu une mesure d'éloignement. Ce n'est comme il le disait lui-même, ce n'est pas une promotion, car le précédent chef de la Gestapo donc, avait été exécuté, hein, donc tombé dans une embuscade le 6 juin 1944. Et donc, évidemment, il vient remplacer quelqu'un qui vient de se faire tuer. Donc la situation n'est pas très bonne dans un département où les forces de police et de répression allemande ne sont pas si importantes que ça, et où la résistance, quand même, joue un rôle important et est quand même très présente, et surtout à partir du 6 juin 1944. Voilà. Donc la première chose, c'est dire l'homme, qui est-il? Pourquoi rentre-t-il dans le jeu de celui qui lui demande, qui est quand même un résistant, qui lui demande d'écrire cette attestation? Alors, sachant qu'on sait que Battel est un vrai collaborateur, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On n'a pas que ce témoignage-là, évidemment. On a d'autres éléments qui indiquent bien que ce personnage jouait un rôle clé dans la répression par les informations qu'il délivrait. Il n'agit pas, il délivre de l'information, il est chef de réseau, il a des informateurs qui lui livrent d'informations. Et ailleurs, dans une déposition du chef de la Gestapo, il dit, je lis, ordinairement, chaque fois que Battel manifestait l'intention de voir quelqu'un du service pour fournir des renseignements, c'est Max qui était envoyé chez lui. Alors Max, c'est un des agents de la Gestapo à Digne. En général, Battel fournissait tous ses renseignements directement à la commandante Tour, en fait. Il les remettait à M. Pro, qui les traduisait en allemand avant de les remettre au général. Donc là, on est à la fin de la période d'occupation, car le général Schubert arrive vraiment dans les derniers mois de l'occupation par l'intermédiaire de l'officier de renseignement. Alors, M. Pro, qui est-il ? M. Pro, c'était en fait un professeur agrégé d'allemand au lycée Gassendi qui avait été révoqué pour son attitude pro-allemande avant la défaite française, donc avant juin-juillet 40, hein, parce qu'il était vraiment germanophile. Il n'est pas d'ailleurs invraisemblable de penser qu'il était peut-être même déjà en relation avec les services allemands avant même le déclenchement de la guerre. Voilà. Non, c'est une hypothèse possible et qui serait peut-être à exploiter. Voilà. Voilà donc ce qui est dit. Autrement dit, on a en fait dans cette relation de renseignement, Battel, qui est donc un Français, qui a un réseau de renseignement, quand il a de l'information, il va soit quelqu'un de la Gestapo vient chez lui, et ça, effectivement, sa secrétaire qui a travaillé pour la résistance et qui travaillait déjà pour la résistance l'a indiqué à la Libération, soit effectivement, il donnait toutes les informations donc à la commandante Tour, hein, où le renseignement français était traduit en allemand pour que les Allemands puissent l'exploiter, car que ce soit la Gestapo ou la commandante Tour, évidemment, il y avait des Français, souvent des Alsaciens, qui travaillaient pour jouer le rôle de traducteur, alors soit de l'allemand vers le français, soit inversement du français vers l'allemand. Voilà. Et d'ailleurs, parfois, certains, comme un de ceux qui étaient à la Gestapo, étaient aussi des membres de la résistance. Voilà. Donc, ils communiquaient aussi les informations de la résistance. Voilà. Donc, ça, c'est la première petite note qui est manuscrite, qui est intéressante, parce que c'est plutôt rare. On a rarement ce genre de choses. Hein, une attestation, c'est pas un interrogatoire, c'est une attestation qui raconte une histoire sur Battel. Et le lendemain, donc là, on était le 24 août, le lendemain, Battel est fusillé. Donc c'est le troisième fusillé condamné par le tribunal populaire, hein, les deux précédents ayant été... Alors c'était Pro, donc justement ce professeur d'allemand révoqué, et Sicard qui avait été fusillé le 23. Alors Sicard, lui aussi, travaillait pour Battel. Voilà, donc c'était un de ses agents. Voilà. La deuxième note est une note... alors c'est vraiment un brouillon. Et alors là, cette réflexion vient d'une réunion que l'on a eu avec un archiviste des archives départementales et un service du conseil départemental qui s'occupe en particulier des enfants. Vous savez, les enfants, le placement des enfants, donc en fait tout ce qui concerne dans les services sociaux, la question des enfants. Et on se posait la question de savoir qu'est-ce qu'on devait conserver comme archive. Car l'un des rôles des archives départementales, c'est justement d'aider les services à savoir qu'est-ce qu'on va conserver, qu'est-ce qu'on va détruire. Et on parlait des notes. Vous savez, les petites notes, ce qu'on écrit au crayon de papier, vous savez, ou au stylo, qu'on rature, vous voyez, sur un papier déjà utilisé, vous savez, au dos, voilà. Donc, et donc, se poser la question des notes, de leur utilité. Et alors, pour ce service, il paraissait évident que ce qui était intéressant comme archive, dans leur gestion, hein, c'était de conserver les documents finaux. C'est-à-dire, en fait, par exemple, la lettre telle qu'elle est envoyée, par exemple, à une famille, dans le cadre d'une adoption, vous voyez, ou un autre service. Voilà. Alors, je leur disais, mais attention, quelquefois, les notes sont très, très éclairantes. Ces petites notes écrites, et quelquefois, elles racontent quelque chose que l'archive officielle, vous voyez, la lettre officielle, qui est finalement très formelle, souvent, ne dit pas. Et là, j'ai une toute petite note qui date du 13 octobre 1942. Alors, cette note, elle a été écrite par... un agent de la préfecture, qui est en fait le chef du bureau de la police et des étrangers à la préfecture en 1942, qui s'appelle Paul Barbaroux, qui n'est pas originaire du département, hein, qui est originaire du Var. cette personne, en fait, écrit une note qui s'intitule « Israélite allemand ». Cette petite note griffonnée, hein, c'est vraiment un brouillon. Alors pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que je rappelle le contexte. En 1942, il y a deux événements qui sont fondamentaux. Le premier, c'est la rafle du Veldiv. Hein, c'est donc le 16-17 juillet 1942 qui concerne essentiellement Paris et la zone nord, hein, voilà, au cours de laquelle, donc, exactement, hein, j'ai pris le chiffre, parce que de mémoire, je ne m'en serais pas rappelé, 13 152 juifs ont été arrêtés et livrés aux Allemands. Ça, c'est quand même le quart du total des juifs, hein, en deux jours, qui ont été envoyés dans les camps d'extermination, pour montrer à l'importance, le caractère considérable de ces arrestations, concernent des juifs étrangers, et non pas des juifs français. Tous ces juifs, donc, arrêtés dans le cadre de la rafle du Veldiv, ont été avant d'être déportés et exterminés à Auschwitz, ont été répartis dans des camps. Il y a le camp de Drancy, que tout le monde connaît, Baume-la-Rolande et Pithiviers. Voilà. Mais en zone sud, il y a eu aussi des arrestations. Alors ces arrestations ont eu lieu en août 1942, exactement le 26 août. Il s'agissait là de livrer 10 000 juifs étrangers. Donc ce n'est pas rien. Et donc, dans les, je crois, 26 départements de la zone sud, eh bien, que font les administrations ? Eh bien, elles reprennent leur liste de juifs, parce que des listes ont été faites suite au statut des juifs, hein, premier statut puis deuxième statut des juifs. Donc les listes se sont faites, elles sont conservées dans les communes les ont remontées, évidemment, en préfecture. Et donc, en la préfecture, on s'active pour préparer ces arrestations. Alors, c'est toujours très compliqué, vous savez, on le voit, hein, la gestion des personnes comme ça, quand vous avez des dizaines de personnes qui ne sont pas du département, qui sont un peu partout, et qui, quelquefois, bougent en plus. Et puis certaines sont là parce qu'elles se sont réfugiées là, d'autres ont été assignées à résidence. Donc on voit que Paul Barbaroux, hein, qui est le chef du bureau, et ses agents ont beaucoup de difficultés à établir des listes précises. Néanmoins, ces listes sont faites. Ensuite, tout est donné à la police, à la gendarmerie, pour procéder aux arrestations. Et à Fort-Calquier, en l'occurrence, les gendarmes, ce sont les gendarmes qui vont procéder aux arrestations, donc se présentent au domicile des personnes arrêtées. Mais tout le monde n'est pas déportable. Il y a des conditions d'âge et des conditions de santé. Alors, c'est important, vous allez comprendre pourquoi. Alors, ils arrivent chez une famille qui s'appelle la famille Grève. Alors, la famille Grève, ce sont des juifs allemands qui sont arrivés en France récemment. Ce sont deux couples, deux frères, qui forment deux couples, ayant chacun un enfant, et ils sont à Fort-Calquier avec leur mère, qui a plus de 80 ans, hein, qui est très âgée. Ces Allemands ont été rapatriés en France grâce aux Français. En réalité, l'un des frères, je ne sais plus si c'est Walter ou Ernest, avait été, pendant la Première Guerre mondiale, il était adjudant de l'armée allemande et il était gardien d'un camp de prisonniers français. Ayant été gardien, ayant fait preuve d'humanité, quand il a été arrêté par les Allemands en 1939, il était dans un camp, eh bien, les Français de ce camp, ont fait pression pour réussir à le faire libérer. C'est ce qui a été fait. Et donc, ces grèves arrivent à Fort-Calquier grâce à l'action d'une association d'anciens combattants, d'anciens prisonniers français. Et donc, ils sont installés à Fort-Calquier. Or, les Allemands donc arrivent, les gendarmes arrivent devant ces juifs allemands pour les arrêter. Or, que constatent-ils ? Ils constatent que leur mère, qui est très âgée, est aussi infirme, donc intransportable. Et surtout, non seulement, évidemment, donc elle ne rentre pas dans le cadre de l'arrestation et de la déportation, mais surtout, ils se disent, à juste titre, mais comment peut-elle réussir à vivre si elle n'a plus d'aide de l'un ou de l'autre ? Et donc, que décide-t-il ? Il décide d'arrêter qu'un couple. Et donc, ils vont arrêter trois personnes, donc un des frères, son épouse, son enfant, et laisser l'autre frère, son épouse, son enfant, pour aider leur mère, continuer à vivre, tout simplement, parce que vous imaginez les conditions en 1942, pour les gens qui sont réfugiés, les conditions de vie, comme c'était difficile. Pour, les arrêter avec de bonnes raisons, non seulement on les arrête parce qu'ils sont juifs allemands, mais on les arrête aussi parce qu'on les soupçonne de faire du marché noir. Alors ça, c'est une question un peu compliquée. Il est, vous savez, dans ces cas-là, pour tuer son chien, on l'accuse de la rage. Donc il n'est pas invraisemblable de penser que, justement, pour, disons, donner plus de raisons à leur arrestation, on les ait aussi accusés de marchand. Après, il y a aussi une autre question, c'est que, comment pouvait-il se nourrir, voyez ? Comment pouvait-il faire pour se nourrir sans forcément, sans passer par le marché noir, voyez ? Il y avait aussi le marché noir. Il n'était pas les seuls, évidemment. Il n'aurait pas été les seuls à le faire. Voilà. Donc voilà. Alors, l'arrestation a lieu. Les gendarmes partent avec le couple et leur enfant. Et donc cette personne est amenée en fait. Alors tous les juifs arrêtés à ce moment-là sont envoyés sur Nice, hein, dans une caserne. Puis de là, remonter sur Paris. Reste donc l'autre. Le problème, alors là, la note, je rappelle, elle est du 10 octobre. Donc, elle est 15 jours après les arrestations qui ont eu lieu dans la nuit. Hein, donc, imaginons, je crois qu'il faut aussi revoir le contexte, imaginons qu'à partir de 0 heure, le matin, dans tout le département, les gendarmes, les policiers de Manosque et de Digne et les gendarmes ailleurs frappent aux portes, réveillent tout le monde en disant, voilà, vous devez faire une valise. Doivent vérifier que les gens ne partent pas avec des médicaments et des armes, des couteaux ou des pistolets. Les médicaments, c'est pour les empêcher de se suicider. Et les armes, évidemment, c'est, on comprend bien pourquoi ils empêchent. Et ensuite, les amènent un train pour les transférer sur Nice. Il faut aussi revoir le contexte, hein, et la violence que ça a eu et qui, d'ailleurs, a choqué, hein, la population. Dans les rapports qu'on a, on a mention, effectivement, de l'incompréhension de la population face à une telle violence qui a été quelquefois... Enfin, une violence, c'est pas forcément violent, en fait, hein, mais la violence, elle est simplement le fait même de l'arrestation. Il n'y a pas d'acte de violence, vous voyez, hein, les gendarmes n'ont pas été violents. Alors, le problème, c'est que Laval s'était engagé à livrer 10 000 juifs, et il n'y a pas 10 000 juifs à livrer. Donc, que faut-il faire ? Ben, il faut essayer de récupérer le plus possible de juifs. Alors, d'où cette note. Et alors, vous avez... En l'occurrence, Vichy, qui téléphone à la préfecture, donc c'est tout l'objet de cette petite note, qui téléphone donc à la préfecture des Basses-Alpes, hein, c'est M. Bauchu, exactement, au poste 132, à l'hôtel de Russie à Vichy, puisque vous savez que les administrations sont installées dans des hôtels, hein, l'hôtel du Parc, etc. Enfin, tout le monde, on connaît bien l'histoire. Et on a quatre noms. Grève Walter. Donc là, on voit bien, notre chef de bureau a écrit les noms. Grève Walter, Grève Ernest, Silberstein Léopold et Hockensbergel Morco. Un trait a été tracé et en dessous, une question, savoir s'ils sont toujours en France. Donc ça, c'est la question. Et répondre à monsieur donc Bouchu, poste 332, hôtel de Russie-Vichy. Et après, on a ce qu'il a fait. Alors il a noté, donc on est le 13, téléphoner à sous-préfecture 13-10-42, donc café Barbaroux, eh bien, il a d'abord téléphoné à la sous-préfecture de Fort-Calquier pour savoir ce qu'il en était. Et il indique, de la même écriture, ce qu'ils sont devenus. Tout se fait par téléphone. Hein. Gray Walter à Fort-Calquier, donc c'est celui qui n'a pas été arrêté. Gray Ernest, c'était celui qui avait, c'était le fameux adjudant, arrêté. Silberstein, Léopold, à Fort-Calquier. Donc celui-ci n'a pas été arrêté non plus pour d'autres raisons. Et le quatrième, il a marqué « a pris le large ». Voilà, donc autrement dit, « a fui ». Donc lui, il a compris qu'il valait mieux s'échapper avant que, évidemment, de nouvelles arrestations aient lieu. Et il écrit ensuite « téléphoner à Vichy le 14-10-42 à 10h ». Donc en fait, le lendemain matin, donc une fois qu'il a eu ces informations, il téléphone à Vichy, donc pour dire voilà ce que sont devenus les quatre personnes dont vous m'avez demandé des informations. Alors quand on met les noms, en fait, c'est les noms plus les familles, en fait. Hein. Il faut sous-entendre, le troisième, je le connais bien aussi, il avait aussi une famille. Voilà. Il était marié, il avait aussi un enfant. Alors, cette note s'arrête là. Alors, elle est intéressante d'abord parce que c'est le téléphone. Donc oui, c'est pour les archivistes, c'est le téléphone, c'est quelque chose de très ennuyeux parce que le téléphone ne laisse pas de traces. Enfin, sauf pour quand on écoute et qu'on enregistre, évidemment, mais autrement, on n'a pas de traces. Hein. Un de mes amis qui travaillait sur l'histoire culturelle, qui avait fait sa thèse sur l'histoire culturelle, me disait Après les années 60, on a beaucoup de mal à savoir ce qui se passe parce que tout se fait par téléphone. Et donc, on n'a aucune information. Donc, cette petite note rappelle quelque chose, une démarche qui s'est faite par téléphone. Montre bien l'urgence aussi hein, de cette situation où les préfectures sont sous pression de la part du ministère de l'Intérieur pour procéder aux arrestations. On a des courriers de Vichy qui disent, en gros, mettez vos gendarmes, mettez vos policiers dans les rues, essayez d'arrêter le plus possible de gens pour vérifier, etc. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, certains juifs se font arrêter. On a un PV de gendarmerie, un procès verbal de gendarmerie, qui indique que vers minuit ou 1h du matin, un père et son fils se font arrêter sur une petite route basalpine. Ils venaient, en fait, du Vaucluse, et ils essayaient, évidemment, d'échapper aux arrestations, et il raconte, le PV dit qu'ils avaient été informés par les gendarmes qu'il valait mieux partir. Voilà. Donc les gendarmes avaient fait un peu quelquefois le tour avant et des endroits où ils devaient aller pour dire peut-être qu'il aurait mieux ne pas être là le jour où on viendra. Vous voyez enfin, voilà. Donc ils ont été pris par d'autres gendarmes qui étaient zélés et qui obéissaient aux ordres de Vichy de manière aveugle. Enfin, les gendarmes faisaient leur travail. C'était aussi. Et puis certains aussi étaient, vous savez, on en avait parlé, étaient plutôt défavorables à la politique de Vichy, mais il fallait ne pas trop le montrer, puisqu'autrement, vous étiez évincés. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que ça raconte une histoire, le caractère urgent. Alors après, quelle est la suite de cette histoire? Puisqu'au fond, que se passe-t-il? Effectivement, donc on va demander, le préfet va demander l'arrestation donc de Grève et de Cyberstein. Puisque c'est les deux seuls qui restent à Port-Calquier. Sauf que quand les gendarmes vont arriver et frapper à la porte, il n'y aura plus personne. C'est-à-dire qu'en fait, aussi bien Grève, Walter que Léopold auront pris la poudre d'escampette, à tel point d'ailleurs que je pense, c'est encore à vérifier, mais je pense qu'ils ont réussi à échapper à toutes les arrestations allemandes. C'est-à-dire que vraiment, je n'ai jamais trouvé mention nulle part de leur arrestation, de leur déportation. Il y a un site qui est le mémorial de la Shoah qui est très pratique parce que vous tapez un nom et vous avez le sort de la personne quand elle était arrêtée. À moins d'avoir été exécutée, vous voyez, de manière un peu de manière sauvage, en fait, par des Allemands, ce qui est assez peu probable en l'occurrence, parce qu'on aurait eu un rapport dans le département et ailleurs, je pense qu'on aurait l'information. Il est vraisemblable qu'ils aient pu réussir à échapper aux arrestations et à se cacher ailleurs. Alors, évidemment, quand les gendarmes arrivent et qu'ils ne trouvent personne, ils font un rapport et le rapport remonte jusqu'à la préfecture pour dire ben voilà, on ne les a pas trouvés. Donc, deuxième question, si on ne les a pas trouvés, comment est-ce possible? Et donc, il y a une deuxième enquête qui est faite par le capitaine qui commande la section de gendarmerie de Fort-Calquier, qui va donc faire l'enquête pour savoir d'où vient la fuite. Et ça, je l'ai déjà parlé de cette question-là, donc je ne vais pas revenir dessus. Et il conclura qu'en fait, il est impossible de savoir d'où vient la fuite, car il y avait tellement de personnes informées de cette arrestation et du transfert de ces deux personnes que, de toute façon, on ne peut pas savoir qui a parlé, qui l'a dit. En tout cas, vous voyez comme quoi les Français quand même certains Français quand même ont fait en sorte que ces personnes ne soient pas arrêtées. Il est clair, hein, et quand on lit le rapport, il est clair que ces personnes étaient évidemment informées, moi je pense par la gendarmerie tout simplement, et que quand dans le rapport on dit qu'ils sont partis dans un sens, il n'est pas invraisemblable de penser qu'ils sont partis exactement dans le sens opposé, oui, hein, parce qu'en fait ils seraient partis en train d'après le rapport, dans un certain sens, mais voilà, on peut tout à fait envisager que tout ça c'est un peu habillés pour qu'on ne puisse pas, en fait, finalement, les retrouver. Et je pense que c'est vraiment le cas. Voilà. Voilà, c'est tout. Allez, c'est une petite note. Hein. C'était pour dire vraiment. Et cette note est très importante parce que elle montre bien, oui, cette volonté, hein, vraiment, de livrer. Parce que au fond, on aurait pu, l'État français aurait pu se contenter de ceux, entre guillemets, évidemment, hein, de ceux qui avaient été arrêtés pour dire, ben voilà, on a arrêté. Mais là, c'est 10 000. Il faut en livrer 10 000, vous voyez. Et c'est vraiment. Et cette note, à sa manière, rappelle cet impératif qui a été donné aux préfectures d'arrêter le plus possible de juifs pour pouvoir respecter les engagements du gouvernement de Vichy. Voilà. Donc c'était deux petites choses, hein, deux petits documents que je voulais évoquer avant de venir sur l'actualité des archives.
Vous vouliez revenir sur ces arrestations à Fort-Calquier, de la manière dont comment ça s'est fait, comment les policiers ou les gendarmes ont pu protéger les...
Oui, alors c'est vrai, on en parlait pendant la pause musicale. Je ne l'ai pas dit, effectivement, mais il y a un élément très important, c'est que, en réalité, entre le moment où on pense les arrêter, où la préfecture pense arrêter ces juifs en suivant les ordres tout simplement de Vichy, et le moment où ils vont être arrêtés, il y a un débat qui s'est instauré entre la gendarmerie de Fort-Calquier et la préfecture, et la gendarmerie de Fort-Calquier, les gendarmes, essaient d'expliquer qu'en fait, il n'est pas possible de les arrêter parce que, justement, leur mère a besoin du couple et de leur enfant pour pouvoir survivre. Et que donc, pour eux, il n'est pas possible. Et donc, ils essaient de faire remonter deux fois, vraiment, ils insistent là-dessus pour dire, écoutez, en gros, c'est une question d'humanité, vous voyez. Mais la préfecture, en fait, passera outre ces demandes des gendarmes pour dire que non, il faut les arrêter car ce sont les ordres, car, je le répète, il fallait atteindre cet objectif de 10 000. Voilà. Donc on voit bien, vous voyez, c'est pour ça que je pense, mais on n'a pas la preuve, évidemment, qu'il n'est pas invraisemblable que les gendarmes, d'une manière ou d'une autre, aient indiqué donc à ces deux couples, puisqu'il s'agit de deux couples, qu'il serait peut-être utile... de ne pas être là au moment où ils vont arriver. Et voilà. Il y avait la deuxième chose, on en a parlé aussi, c'est vrai, ce qu'on ne sait pas, c'est malheureusement, je n'ai pas trouvé de descendants de ces grèves ou de gens en relation à un moment donné ou à un autre, ou de la famille. C'est de savoir comment ces gens ont pu échapper et où ont-ils été, comment ont-ils été pris en charge, par qui. Vous voyez, ça, c'est aussi un des éléments importants. Quand on travaille sur les archives, on a ce qui est écrit, vous voyez, ce qui est raconté, ce qui est dit, donc ce qui est officiel souvent. Malheureusement, on n'a pas, et on comprend bien, évidemment, ce qui est caché, ce qui est tu. Le caché, le tu, on l'a à la fin. Vous voyez, quand, par exemple, mon chef de la Gestapo va dire qu'un tel est effectivement un collaborateur qui le voyait presque quotidiennement. Mais sinon, on ne peut pas le savoir, vous voyez. Donc, en l'occurrence, on ne sait pas, vous voyez. Peut-être même que ceux qui les ont aidés à fuir vers un autre département ne savent même pas qui ils étaient, vous voyez. Ils savaient simplement qu'ils étaient fugitifs, mais sans connaître leur nom, vous voyez. Donc, comment faire pour retrouver, c'est impossible.
Et puis, ils ne pouvaient pas s'en vanter aussi.
Exactement, bien sûr, voilà. Donc, oui. Et puis, vous savez, on ne pouvait pas s'en vanter pendant la guerre, évidemment. Et puis, souvent, après la guerre, beaucoup de gens qui ont aidé les Juifs, y compris d'ailleurs à les protéger vraiment, c'est-à-dire en fait à les abriter chez eux, etc., n'ont pas fait de démarches particulières pour faire la publicité de leur activité, vous voyez.
Ils sont restés humbles.
Exactement, la vie a repris son cours, les choses ont changé, la guerre était terminée, et donc ils ont effectivement pas fait mention de leurs actions. On retrouve parfois, mais c'est très rare, vraiment, là je travaillais sur le même sujet, sur, vous savez, après la guerre, ceux qui recherchent des informations sur les gens qui ont été arrêtés de leur famille, j'en parlerai une autre fois, mais dans un petit hameau dans la montagne, on a un garçon qui assiste à l'arrestation de sa famille. Le garçon a la chance, au moment où les gestapistes arrivent, ils viennent de Marseille, a la chance d'être dans une annexe, de ne pas être dans la maison principale. Vous voyez, il est dans une annexe. Et ses parents se font arrêter. Alors, c'est pas de chance, c'est vraiment... Ils se font arrêter alors qu'ils n'étaient pas... Les Allemands ne venaient pas pour eux. Mais ils vont se rendre compte qu'il y a là aussi des Juifs cachés. Voilà, et donc, voilà. Bon, ça, c'est une histoire que je raconterai plus tard, mais une autre fois, parce que je suis en train de travailler dessus. Mais voilà. Là, évidemment, on a un fils qui raconte. Alors là, du coup, on a la description exacte de l'arrestation, parce qu'il a tout vu. Comme il dit, j'ai tout vu. Et il était transi, vous voyez. Il avait peur. Il avait. C'est un jeune homme, vous voyez. Donc là, effectivement, on sait qui a fait quoi. On sait qui protégeait. Comment a lieu l'arrestation? Parce qu'en fait, il tente, lui et d'autres, la sécurité militaire, à faire condamner en fait, des Italiens qui auraient travaillé pour la Gestapo allemande. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là qu'on a ce témoignage. Voilà. Mais parce qu'on a un survivant, quelqu'un qui a échappé à une arrestation. Si toutes les deux familles, en l'occurrence, les deux groupes, parce que c'est deux groupes, c'est plus compliqué, deux groupes avaient été arrêtés au complet, on n'aurait plus l'histoire, oui. On ne saurait rien. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'appréhender ces phénomènes.
Et passage en Italie, vu qu'il y avait la reddition de Mussolini juste presque un an auparavant, oui. Il y a des dans l'autre sens, plutôt que d'aller dans le sud, de prendre la mer ou...
Alors il y a, oui, alors il y a, quand les Italiens sont partis, mais ça sera un sujet en tant que tel, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de l'occupation allemande, on parle rarement de l'occupation italienne, qui a quand même duré un certain temps, hein, donc de 40 à novembre 42, donc ce n'est pas rien. Alors c'est vrai que je l'avais déjà évoqué aussi, le rapport des Italiens avec les Juifs est très différent de celui des Allemands, à tel point d'ailleurs que quand les Italiens partent donc en septembre 43 pardon, partent pour parce que on est effectivement dans la phase de reddition et qu'ils n'ont plus de raison d'être là et que les Allemands vont les remplacer, eh bien ils tentent de ramener les Juifs avec eux en leur expliquant qu'ils n'ont pas intérêt à tomber dans les mains entre les mains des Allemands. Et il y aura une tentative effectivement pour en transporter vers l'Italie, qui va d'ailleurs plus ou moins échouer. Enfin bon, ça c'est un sujet en tant que tel, hein, du côté des Alpes-Maritimes. Mais voilà. Mais il y a, alors vous savez, dans la collaboration, en fait, il y a deux aspects du problème. On voit donc, j'évoquais tout à l'heure Battel, hein, qui a collaboré avec les Allemands, mais il y a eu aussi des gens qui ont collaboré avec les Italiens. Car les Italiens ne sont pas non plus forcément des gens toujours sympathiques, hein. Le BRAC, qui était leur police secrète, était très, très efficace. Elle utilisait aussi la violence comme moyen pour faire parler les personnes arrêtées. Donc ça ressemble assez à la Gestapo. Voilà. Et donc il y avait la question de la collaboration, et en particulier auprès des Italiens, car les Italiens sont très nombreux dans le département. Et donc évidemment, certains sont antifascistes, évidemment.
Bah oui, ils avaient fui. Donc, hein.
Oui, d'autres sont indifférents. Et puis d'autres sont des collaborateurs. Vous savez, on collabore pour beaucoup de raisons, pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons vénales, hein, tout simplement. La chasse aux Juifs était effectivement, vous faites le geste, mais vous avez raison, c'était une façon de gagner beaucoup d'argent de deux manières d'ailleurs. Un, en les dénonçant, on avait des primes. Et puis deux, lors des arrestations, on leur volait à peu près tout ce qu'ils avaient. On a des fois, j'ai un cas là qui est absolument incroyable, où des Juifs ont été... c'est le préfet qui en parle, hein, c'est le préfet qui se plaint justement de la manière dont les gestapistes français, hein, qui dit bien être français, hein, qui viennent de Marseille, ont arrêté un couple de Juifs et leur ont volé quasiment pour 1,5 million d'argent, de bijoux. Voilà, parce qu'il faut toujours penser, hein, qu'ils ont tous de l'argent avec eux, puisque par définition, ils ont tout abandonné. Ils ont pris ce qu'ils avaient, toute leur liquidité à l'époque. On garde beaucoup d'argent chez soi, hein, mais les paysans aussi ont de l'argent, hein, 10 000, 100 000, 200 000, euros, 200 000 pardon, francs, hein, qui sont cachés plus ou moins dans l'armoire. Vous voyez,
dans les matelas.
Oui, voilà, voilà, exactement. Et donc tout le monde a de l'argent comme ça. Et les bijoux, c'est aussi une forme, hein, de permettre de thésauriser. Donc voilà, donc évidemment, ce sont des proies faciles et on les dépouille. Et dans l'histoire que je vous racontais avec ce jeune homme qui raconte l'arrestation, une des personnes a tenté de s'échapper. Elle a été exécutée justement par un de ces Italiens qui travaille avec la Gestapo et qui lui a pris son portefeuille et l'argent qu'elle contenait. Voilà, donc voilà, c'était donc une activité très lucrative. Qui évidemment pour des gens sans foi ni loi était tout à fait une façon de s'enrichir, hein, vraiment, et de vivre bien alors que tous les autres vivaient très mal, car nous sommes en période de guerre, d'occupation et de pénurie. Voilà. Donc c'est...
Et en se mettant hors contexte, puisque l'époque n'est plus la même, le fait de bien se faire voir par Vichy, de bien se faire voir par l'Allemagne, les Italiens, ça devait être à peu près le même topo.
Oui, c'est exactement pareil. Bien sûr, oui, vous avez raison. Les comportements sont les mêmes. Et donc, effectivement, il y a la volonté pour les uns et pour les autres, pour certains, de bien se faire voir par les uns et par les autres. C'est vrai dans l'administration, c'est vrai aussi ailleurs. Hein, c'est vrai, je pourrais vous en parler des heures, mais c'est vrai aussi pour tous ceux qui ont... bénéficier de cette période parce qu'ils ont eu des commandes. Vous voyez, les entreprises, certaines entreprises, pas toutes, hein, certaines ont refusé, évidemment, hein, ont fait tout pour saboter. Vous voyez. D'autres, au contraire, ont tout à fait collaboré, hein, c'est ce qu'on appelle la collaboration économique, hein, pour effectivement livrer. C'était les Allemands avaient évidemment beaucoup d'argent à dépenser, et donc c'était pour eux des clients intéressants, pour certains. Voilà. Donc on a tous ces aspects, hein, les fonctionnaires, vous avez certains fonctionnaires, et les préfets en particulier, qui ont le, certains ont le souci de l'exemplarité, c'est-à-dire en fait effectivement d'être bien vu par son administration, par son ministère, pour pouvoir avoir une belle carrière. Évidemment, il y a de l'opportunisme, hein, et il y a aussi des gens qui ont des convictions. Hein. Il faut aussi toujours se rappeler qu'il y a des gens qui agissent aussi pour de mauvaises raisons, mais en ayant des convictions très profondes, hein, l'antisémitisme, le racisme, l'anticommunisme, et qui se retrouvent du coup très proches des Allemands. Vous voyez, donc voilà, tous les cas sont possibles.
Et comme le père de Hélène de Hoche et Hélène,
les deux résistants,
le capitaine de gendarmerie de Fort-Calquier, est-ce que dans l'administration, il y avait des gens qui étaient en résistance, qui étaient, faisaient partie de la résistance
aussi ?
Bien
sûr, oui, il y avait d'ailleurs une organisation hein, qui était un noyautage des administrations, en fait, hein, qui était un mouvement, en fait, qui avait pour objectif, effectivement, de regrouper tous ceux qui travaillaient pour de créer vraiment un réseau de résistance à l'intérieur même de l'administration, à Digne, pour parler du cas de Digne. Le chef de cabinet était un de ceux-là, voilà, du préfet. Voilà, donc pour vous dire que les choses sont toujours compliquées. C'est pas blanc-noir, c'est pas une administration totale qui collabore. Vous avez Barbaroux, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est un milicien, qui est un vrai... qui est vraiment pour la collaboration pure et dure, et qui est chef de bureau. Et puis, à côté de lui, vous pouvez avoir un autre chef de bureau qui, lui, au contraire, est plutôt contre les Allemands, pas tellement favorable à la politique de Vichy, et puis à côté, quelqu'un d'autre qui, au contraire, peut être lui aussi contre les Allemands, mais tout à fait favorable à la politique de Vichy dans sa partie Révolution nationale, vous voyez. Hein. Voilà, tout est possible, hein. On a vraiment tous ces cas-là, tous ces cas existent, et évidemment à la Libération, on le sait, parce que des listes sont dressées hein, pour savoir qui a fait quoi, et qui était de quelle sensibilité. Et on a donc des documents qui font la liste des fonctionnaires qu'il faut révoquer, parce que cela a été vraiment pour la collaboration ou pour une politique de Vichy. Hein. C'est deux choses distinctes, hein, vraiment, il faut distinguer. Et puis, au contraire, ceux qui ont aidé pour des faux papiers, pour... Voilà. Donc, vous avez... tout ça existe, voilà. Et certains ont eu à rendre des comptes, hein, à expliquer. On a un beau rapport, je crois que c'est d'un secrétaire général de la préfecture, hein, qui explique son attitude et qui dit que c'était très compliqué, évidemment, parce qu'ils sont quand même dans une administration, ils ont quand même des ordres qu'il faut plus ou moins suivre. Alors après, on peut saboter les effets, vous voyez. Et puis, qui raconte aussi qu'on est dans une administration où il y a des gens à côté de vous qui ne sont pas forcément du même avis que vous et qui sont très militants, comme ce fameux Barbaroux, et qui eux-mêmes surveillent de l'intérieur, vous voyez, ce que font les autres, savoir s'ils sont orthodoxes ou pas. Vous voyez, donc c'est très compliqué. Les situations, vous imaginez, on doit se cacher, on doit faire semblant à côté de gens qui sont, eux, convaincus de faire ce qu'il faut. Voilà.
Et pour ce qui est de faire des faux papiers, c'est une logistique, il faut une presse, il faut une imprimerie, enfin, c'est... Comment pouvaient être imprimés les faux papiers, bon, les cachets, bon,
alors,
ça...
Oui, alors en fait, c'est une vraie petite industrie, hein. Je ne sais plus, je l'ai su, le nombre de faux papiers qui ont été fabriqués pendant la Deuxième Guerre mondiale est absolument ahurissant. Enfin, il y a eu ces fameuses cartes d'identité préfectorale. Il y avait des cartes d'identité nationales qui ont été créées, mais qui ont été très peu délivrées parce que c'était très compliqué. C'était pas fait partout. Donc, en fait, on délivrait des cartes d'identité préfectorales. Et vous avez, il y a des faussaires, mais partout, hein, vraiment, dans toutes les administrations. On accusait beaucoup les secrétaires de mairie. Évidemment, ils avaient les tampons, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils avaient le papier, ils avaient... Voilà. Et c'est d'ailleurs aussi un des problèmes pour les Juifs, parce que quand vous avez des Juifs qui sont arrêtés, les gendarmes essaient de savoir qui c'est. Mais quand vous avez des faux noms, vous ne savez pas de qui il s'agit. Donc là, vous voyez, il y a aussi un problème. Je regarde, moi, à chaque fois que j'ai des arrestations de juifs, j'essaie de voir quel est leur sort. Et donc je vais justement ce fameux site, hein, Mémorial de la Shoah, qui permet effectivement, vraiment, qui est quand même très très fiable, et qui, je pense, a sans doute, pas 100% évidemment, mais pas très loin quand même, parce qu'ils ont travaillé à partir des listes de déportation. Donc, en fait, les gens qui étaient dans les trains, donc vraiment, hein, donc, ont été établis par les Allemands. Donc, on a vraiment les noms. Le problème, c'est quand vous avez quelqu'un qui a des faux papiers, hein, ce que fait le rapport de gendarmerie, il dit voilà, j'ai un couple, etc., qui a été arrêté, il s'appelle un tel, il viendrait de tel endroit, et il porte tel nom, mais les papiers étaient faux, vous voyez, donc, parce que c'est des clandestins, voilà, donc c'est une des difficultés. En fait, quand ils sont arrêtés après, ils doivent donner un nom, j'imagine. Alors, est-ce qu'ils donnent en l'occurrence, les noms qu'ils donnent ne sont jamais ceux qu'on retrouve après dans les listes. Donc, ça veut dire que les Allemands, ou que peut-être à ce moment-là, ça n'a plus d'importance et on donne son vrai nom. Vous voyez, du coup, je ne retrouve pas.
Et
je...
puis, quand ils s'en vont, ils laissent les vrais papiers. Oui, pour retrouver une identité en ayant des faux papiers,
Tout est confisqué de toute façon. Les documents sont confisqués par ceux qui arrêtent. Hein. Les gendarmes, eux, n'ont pas de traces dans la brigade parce que ce sont des clandestins. Hein, ils se cachent, en fait. Et donc, du coup, ils sont sur les listes, hein, évidemment, mais sous quel nom ? Sur leur vrai nom, mais comme on ne peut pas savoir quel est leur vrai nom, et bien, du coup, on les perd, vous voyez. Donc, ça, c'est une des difficultés. C'était vrai aussi pour les résistants, les gens étaient choqués parce que quand les Allemands exécutaient les résistants, ils leur volaient tout ce qu'ils avaient sur eux. Alors, ils le volaient pour de mauvaises raisons. Hein, les Français faisaient pareil. Les Français qui travaillaient avec les Allemands, pour de mauvaises raisons, pour essayer, évidemment, de récupérer de l'argent, etc., mais aussi parce que ils essayaient de récupérer les papiers pour voir d'où ils venaient, qui les avait délivrés. Car c'est intéressant aussi de savoir l'origine des documents, parce que, évidemment, beaucoup de résistants qui étaient réfractaires, par exemple, au service du travail obligatoire, beaucoup de résistants avaient des faux papiers. Donc, c'était intéressant de savoir quelles étaient les filières. J'avais, je crois, raconté une fois que des Français qui travaillaient pour les Allemands et qui avaient pour mission d'infiltrer les réseaux de résistance français s'étaient fait délivrer des papiers, des faux papiers, par une filière qui travaillait pour la résistance. Vous voyez, donc évidemment, c'était un des éléments. Ils essaient de récupérer les papiers et les photos. Les photos, c'est très important, parce que ça permet d'identifier, évidemment, hein, on imagine la photo de groupe, les résistants du coin qui sont pris en photo. Vous voyez, évidemment, de tel type de photo, c'était évidemment une information précieuse pour ceux qui organisaient la répression.
Bien.
Voilà, oui, c'est vraiment... on a un petit peu débordé. Je partais sur mes deux documents. On arrive presque à l'heure. Voilà, pour dire peut-être un petit mot sur l'actualité, puisque nous sommes à une semaine des Journées du patrimoine. Donc,
le fameux vendredi en 8.
Voilà, qui est en fait le 16. Voilà, exactement. Donc, dans une semaine, effectivement, vendredi, nous allons inaugurer notre nouvelle exposition, donc à 17h30, une exposition qui est la troisième sur la guerre de 14-18, donc qui s'intéresse à l'année 1916-1917, et dont la thématique particulière porte sur l'aviation, hein, sur les héros de l'aviation et sur l'aviation, puisqu'on chaque année, on essaie de mettre en évidence une thématique. On a aussi dans l'exposition mention de la question des étrangers dans le département pendant la Première Guerre mondiale. On se penche aussi beaucoup sur un centenaire qui est celui donc de l'usine de Saint-Auban. On a sorti, là, on vient de le mettre aujourd'hui, hein, c'est pour ça que j'en parle. On a sorti un plan qui est contemporain, qui est fait juste après la guerre, qui montre qu'un plan qui fait 1m40 de haut sur presque 2m20 ou 2m30 de longueur de l'usine et de ses installations, des maisons moulées, des cantines, etc. Voilà, donc on va montrer ça. Donc ça, c'est à 17h30 vendredi prochain. Enfin, vendredi en 8, donc le 16.
Le 16 septembre, voilà. Cette exposition durera toute l'année.
Oui, exactement, hein, donc comme jusqu'en août l'année prochaine. On présentera aussi, donc le jour même, on travaillera donc avec des scolaires, puisqu'on le thème c'est patrimoine et citoyenneté, donc on travaillera avec des scolaires. On a pour le moment 5 classes qui sont inscrites, 3 de primaire et 2 de collège, pour venir travailler sur les affiches, hein, ce qu'on appelle les placards, mais qui sont en fait des affiches non illustrées de la Révolution française, donc 1789, en l'occurrence 1795, sur la citoyenneté, donc la Marseillaise, les droits de l'homme, etc., hein, les valeurs de la République. Donc ça sera la journée, le soir, donc 17h30, l'inauguration, et le lendemain, le samedi après-midi, donc de 2h à 6h, eh bien, il y aura visite des archives, ça c'est tout à fait classique. Et puis, pour ceux qui ont envie de se coltiner un petit peu à l'histoire, et à partir de la Révolution, ils auront droit à un petit jeu, hein, qui sera un jeu de la Révolution, ça va tester les connaissances, en fait, sur ce sujet. Voilà.
Jean-Christophe, merci.
Merci à vous. Et donc,
le 13 octobre.
13 octobre, donc ça sera donc le jour où on inaugurera une nouvelle exposition sur l'alimentation. On aura l'occasion d'en parler ce jour-là, parce qu'on sera en plein dedans. Voilà.